J'ai fait les PFL, j'ai fait un doctorat dans le domaine des circuits intégrés à basse consommation. Ensuite, je suis parti...
Qu'est-ce que ça veut dire, basse consommation?
Ça veut dire typiquement en dessous d'un milliwatt. C'est un peu un...
Simplement pour donner un ordre de grandeur, ça représente quoi?
Ben, disons qu'un téléphone, c'est plusieurs watts, et on est mille fois en dessous du téléphone, ou plusieurs, ou moins que ça. Ça peut aller encore beaucoup plus bas.
Deuxième définition, un circuit intégré, c'est quoi?
Un circuit intégré, c'est un circuit électronique qui est sur une puce. Donc tous les transistors et les composants sont sur une petite puce en silicium.
Et quand on parle d'une puce, c'est la même chose que le circuit intégré?
Oui.
Et par rapport à un ordinateur, la différence?
Un ordinateur, c'est un ensemble de puces sur un circuit imprimé qui sont interconnectées et d'autres composants.
Et comment est-ce qu'on en arrive là?
Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? On doit designer le circuit intégré avec des outils assez complexes, qui ça peut être dans le domaine analogique ou dans le domaine digital. Et on décrit ce qu'on désire comme fonction, comment on va les interconnecter. Et ensuite, on va de là dessiner les plans du circuit intégré. Hein,
c'est comme un architecte?
Comme un architecte, oui, c'est très similaire. Et on a des outils qui vont vérifier que les plans correspondent à ce qu'on voulait. Donc il va simuler ces plans et vérifier qu'on arrive bien au résultat qu'on désirait.
Par rapport à un fonctionnement voulu?
Par rapport à un fonctionnement voulu, et des caractéristiques, des spécifications. Et puis, ces plans, on va les envoyer à une usine de fabrication. Hein, par exemple, TSMC en Taïwan, c'est la plus connue, qui va, avec des instruments très complexes, hein, un système de fabrication extrêmement complexe, fabriquer ces chips.
Et on est obligé d'aller à Taïwan ou on pourrait le faire en Suisse?
Alors, en Suisse, il y a quelques fabs, il y en a une ou deux, sur des technologies relativement moins avancées, mais des spécialités de niche. Il y a un certain nombre de fabs en Europe qui sont un peu plus avancés, mais toutes les fabs très avancées sont en Asie.
Et donc, une personne va dessiner son chip, ensuite il va le simuler,
voilà.
Et ensuite il est obligé de partir à Taïwan. On ne va pas faire un prototypage en Suisse simplement pour savoir si effectivement ce qu'a calculé l'ordinateur correspond à la réalité.
C'est possible, encore une fois, si on est dans les une ou deux fabs, on utilise une ou deux fabs qui correspondent en Suisse, mais typiquement ce sera en Europe.
Donc ça veut dire que la simulation est extraordinaire.
La simulation est devenue extrêmement précise, effectivement. Il y a toujours des petites surprises, mais on arrive à simuler des circuits qui ont typiquement des millions de transistors ou des millions d'éléments, mais ça peut aller jusqu'à des milliards, voire jusqu'à beaucoup plus. Ça coûte tellement cher, finalement, de faire le prototype qu'on ne peut pas se permettre de rater trop de fois, que finalement, dans la plupart des cas, on arrive du premier coup à un circuit qui, en tout cas, à peu près les caractéristiques qu'on désire, et puis ensuite on fait une itération pour arriver au circuit final.
Est-ce qu'il y a différents types de circuits imprimés? Il y a différents types de chips ou bien il y en a un seul?
Alors il y a toutes sortes de...
Est-ce que c'est des systèmes qui sont super flexibles et ensuite on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec, ou est-ce que c'est des circuits qui sont spécialisés?
Alors il y a les deux, il y a les deux en fait. Les circuits les moins spécialisés, ce qu'on appelle des FPGA, ils sont complètement programmables, ils nous permettent par la suite de connecter ce qu'on appelle les portes logiques de la manière, ou des éléments, des blocs de la manière dont on désire. Mais évidemment, c'est moins optimum. Mais c'est souvent comme ça qu'on fait le premier prototypage. Et puis ensuite, si on veut optimiser le circuit intégré, on va faire un circuit dédié à une certaine application bien précise. Et finalement, plus il doit être optimum, par exemple en termes de consommation, plus il va être focalisé sur une application donnée.
Comment est-ce qu'on devient un architecte en chips?
Alors, par la pratique, on commence par faire de la conception de blocs.
Et on commence par faire quoi? De la physique? On commence par faire de l'électronique?
Alors, typiquement, c'est de l'électronique, electrical engineering. Il y a une spécialisation dans le domaine circuit intégré dans les dernières années. Mais c'est vraiment qu'une introduction. On peut faire peut-être un master dans le domaine. Et ensuite, je dirais...
Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler avec cet infiniment petit et complexe?
C'est vraiment la capacité de créer ces systèmes très complexes, qui sont tout petits, finalement, et qui peuvent révolutionner finalement les objets de tous les jours. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pratiquement tous les objets que vous manipulez, il y a des puces à l'intérieur. Et rien ne fonctionne sans puces. Bien sûr, la voiture, il y a jusqu'à 3500 circuits intégrés dans une voiture aujourd'hui. C'est absolument inimaginable. Mais tous les outils que vous utilisez, votre four, bien sûr votre téléphone, tout ce qui utilise l'électricité aujourd'hui, il y a des puces qui sont au cœur de cette technologie. Donc c'est une technologie cachée, mais très importante.
Et tout vient de Taïwan?
Alors, pas tout vient de Taïwan, comme je disais, dans des domaines un peu plus spécialisés, comme par exemple l'automotive, la voiture. Il y a une spécialité en Europe, des gens comme ST, par exemple, Bosch et d'autres, ont des usines de fabrication, mais ce ne sont pas les usines les plus avancées. Les usines les plus avancées sont un petit peu aux États-Unis, mais beaucoup en Corée et à Taïwan et un peu en Chine.
Alors, vous parlez des technologies avancées, des technologies normales. Qu'est-ce qui fait la différence?
Alors il y a une dimension qu'on appelle la longueur de grille qui définit en fait les générations. Et disons que en Suisse, on est jusqu'à 110 nanomètres à peu près. En Europe, on descend à une vingtaine de nanomètres. Et en Asie, enfin les générations les plus avancées sur lesquelles on travaille sur le 2 nanomètres.
Et ça, c'est une barrière, une limite physique, ou est-ce que c'est une limite technologique?
Il faut des équipements de plus en plus compliqués, évidemment, pour
Mais donc, on
fabriquer ces
pourrait
chips.
descendre à 0,5 nanomètres.
Alors, il y a un roadmap qui descend effectivement en dessous du nanomètre, mais il faut faire attention. Ce chiffre devient en fait virtuel. Ça devient un chiffre équivalent de densité et de capacité, c'est-à-dire sur un millimètre carré, la complexité du circuit qu'on peut faire. En réalité, quand je parle d'un circuit à 2 nanomètres, il n'y a absolument rien qui mesure 2 nanomètres. C'est une équivalence.
Et donc aujourd'hui, on doit construire des appareillages qui sont d'autant plus complexes, simplement pour pouvoir produire des puces qui sont de plus en plus petites. Mais c'est seulement la taille qui compte, ou est-ce que c'est la consommation électrique qui est due à la taille? Quels sont les avantages? Si on a de la place, on peut mettre un 1000 nanomètres.
Alors, aller vers des technologies beaucoup plus avancées, ben, ça va permettre beaucoup plus de transistors et de faire des fonctions beaucoup plus complexes. Alors, typiquement, aujourd'hui, une des technologies dont on parle beaucoup, c'est les AI. Donc là, on parle d'un trillion de transistors. C'est les ordres de grandeur. Donc, il faut des technologies très avancées, simplement pour pouvoir mettre sur un circuit de taille raisonnable. Il y a une limite physique de la taille maximum qu'un circuit peut
Mais
faire.
justement, la question, c'est simplement, c'est la place, l'encombrement de la puce, ou est-ce que finalement, plus on fait petit, moins l'énergie qui est consommée est
Alors,
grande?
en général, oui. Plus on fait petit, en tout cas sur une bonne partie de la courbe, quand on arrive en dessous de 10 nanomètres, c'est plus compliqué que ça. C'est surtout de la densification de
Pour
fonctions.
avoir des systèmes qui sont plus petits.
Qui sont plus petits, plus performants, plus de fonctionnalités dans un seul chip.
Ce que vous dites, c'est qu'en gros, on passe de la Suisse qui est à quelque chose qui est presque macroscopique, à quelque chose qui devient extrêmement petit. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que la Suisse n'est pas capable de produire des 2 nanomètres?
Alors, il faut comprendre qu'une usine moderne, ça coûte 20 milliards, à peu
Mais la
près.
Suisse a beaucoup de sous.
Voilà, mais il faut de l'eau, il faut de l'électricité, et puis il faut de la main-d'œuvre qualifiée.
Mais on ne serait pas capable de le faire, ou est-ce que c'est un choix stratégique?
Je pense qu'il n'y a juste personne qui a envie d'investir en Suisse ce genre de somme. Et puis, une limite pratique, rien que trouver les techniciens qu'il faudrait pour bien former pour ce genre d'usine, ce serait compliqué. Aujourd'hui, même aux États-Unis, c'est un problème. Ils essayent de réindustrialiser, de rouvrir des fabs avec ce type d'avance, et ils ont beaucoup de peine à trouver les techniciens pour les faire fonctionner, finalement.
De plus en plus, et essentiellement depuis la période du Covid, et je dirais même depuis la partie avec la guerre de l'Ukraine, se posent des questions de souveraineté. Donc aujourd'hui, en gros, ce que vous dites, c'est qu'on est complètement dépendant de l'Asie du Sud-Est.
Complètement.
Et qu'est-ce que l'on ferait à supposer qu'on ne puisse plus importer?
Ah,
Covid numéro 2, on n'arrive pas à importer de chips.
c'est dramatique. On l'a vu dans le domaine, même de l'automobile où on produit en Europe, là, il y avait déjà des effets très clairs. Sur les circuits les plus avancés de votre voiture, hein, l'ordinateur de bord qui fait plein de choses, le multimédia, ces choses-là. C'est fabriqué aujourd'hui en Asie, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et d'autres circuits moins avancés, encore une fois, il y en a 3 500 dans une voiture haut de gamme, on peut les faire en Europe, mais il y a une limite de capacité. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas tout produire en Europe, même si on le désirait. Donc on serait vraiment dans une situation effectivement difficile.
Ce que l'on entend, c'est que l'Europe est en train de s'y préparer. Elle a édité un Chip Act. Elle
Absolument.
est en train de se poser la question si elle veut construire ses foundries. Comment vous voyez ça?
Alors, je pense que c'est nécessaire hein, d'essayer de reprendre une partie de souveraineté. À noter que l'Europe, je crois, à bon escient, se focalise beaucoup sur ces technologies spécialisées pour des domaines qui sont plus liés aux capteurs, à l'automotive, qui sont historiquement des spécialités européennes. Il y a TSMC qui négocie pour éventuellement établir une usine en Europe également. Donc il y a toutes sortes d'initiatives qui vont dans cette direction et j'espère qu'elles vont.
Et comment se positionne la Suisse par rapport à ces projets?
Alors la Suisse, je pense, est essentiellement un utilisateur. Encore une fois, on ne va pas faire le pas Il n'y a personne, je pense, qui va investir en Suisse, ce n'est pas raisonnable, pour aller vers des technologies même 20 nanomètres ou 10 nanomètres. Hein, encore une fois, on est à 110 à peu près aujourd'hui. Mais par contre, je pense qu'on doit collaborer avec l'Europe pour avoir nos approvisionnements qui est en tout cas en partie garanti.
Mais est-ce que la Suisse ne devrait pas se dire, peut-être qu'on n'arrivera pas à toucher la technologie la plus moderne de descendre au-dessus de 2 nanomètres, et puis on garde une usine que j'appellerais grossière, simplement pour couvrir les besoins
alors,
en cas de crise.
Ce qu'il faut dire, c'est que la Suisse est dans une niche technologique, comme je disais, hein, par exemple la basse puissance, tout ce qui est sensing, et c'est typiquement des chips qui n'ont pas besoin de ces technologies les plus avancées.
Donc on pourrait travailler avec du 100 nanomètres.
Donc on peut travailler en partie avec du 100, il y a plein de produits qui se font, et puis entre, je dirais, 10 et 100, donc des technologies qui sont disponibles en Europe, on peut faire, couvre la majorité des besoins suisses, des industries suisses.
Si je regarde un petit peu l'historique du développement de ces chips, comment ça s'est développé? À partir de quand est-ce qu'on a commencé à faire une intégration poussée de tous ces petits composants, et combien de temps ça prend pour développer une nouvelle génération?
Alors, on a commencé peut-être dans les années 60, dans le premier transistor, c'est les années 50, on a commencé à intégrer un certain nombre de transistors dans les années 60.
C'est les transistors qui ont changé, ou c'est la taille du transistor qui a changé, ou la densité de transistors?
Alors, c'est tout, c'est la taille, c'est la géométrie, c'est la façon dont on les fabrique, hein, qui a évolué aussi. Vous imaginez bien, on a commencé avec des transistors qui faisaient plusieurs microns. Maintenant, on est dans le domaine équivalent du nanomètre, ça n'a plus rien à voir en termes de technologie. Juste pour vous donner un pointeur, une des machines de photolithographie qui est nécessaire pour faire ces technologies très avancées, ça coûte 350 millions, ça prend deux containers entiers pour les déplacer.
Et qui
c'est
qui les fabrique, ces machines?
Alors ça, c'est intéressant. L'Europe est le leader, c'est ASML aux Pays-Bas, qui est la seule compagnie les plus avancées dans ce domaine-là.
Donc ça veut dire que si jamais on n'arrivait plus à importer de chips, on n'arriverait plus à exporter non plus les machines qui permettent de les produire.
Ça veut surtout dire
que l'un est en train de tenir le deuxième.
Ça veut dire que l'Europe, moi je vois plutôt comme ça, il y a une monnaie d'échange. L'Europe est importante aujourd'hui, toujours dans le domaine du chip, à travers cette technologie unique qu'elle a. Donc il y a un échange de bons procédés qui peut se faire si peut-être politiquement ça devient plus compliqué.
Et là on parle essentiellement de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe, les États-Unis là-dedans. Ils produisent à la fois l'équipement et les chips?
Alors il y a des compagnies qui produisent de l'équipement, pas tout à fait aussi avancé que ASML, et il y a des compagnies qui font des chips, pas tout à fait aussi avancé que les compagnies taïwanaises. Ben, Intel par exemple, qui a un certain nombre de problèmes aujourd'hui, ben, partie de ces problèmes c'est qu'ils sont toujours un petit peu en retard sur Taïwan depuis maintenant 20 ans. Mais leur situation maintenant va peut-être se renforcer, parce que justement on a besoin de ces compagnies en dehors d'Asie, donc ils ont peut-être une carte à jouer.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en Suisse on est encore performant pour faire le design de chips, mais on n'est pas capable de les produire. Est-ce que finalement on n'est pas en train de capitaliser sur un domaine sur lequel en fait on ne maîtrise pas toute la chaîne de valeur?
Alors il n'y a plus personne qui maîtrise toute la chaîne de valeur, ces domaines sont tellement complexes, c'est vraiment un domaine où la chaîne de valeur s'est séparée en spécialisation depuis un certain temps, et maintenant être complètement verticalisé, c'est pas la façon la plus optimale d'opérer. Donc je pense que la Suisse n'est pas dans une situation unique, et donc la Suisse a un certain nombre de capacités uniques en termes, par exemple, de systèmes de communication. On fait des puces de basse consommation dans la communication, dans le sensing, ce genre de choses-là, qu'on peut garder, même si on ne les fabrique pas toutes ici. Mais je rappelle, ben, il y a en tout cas une fab, M. Marin, pour ne pas la citer, qui fabrique toutes sortes de chips. Ce n'est pas dans les technologies les plus avancées, mais par contre, ils gagnent dans d'autres domaines. Alors, si on est intelligent dans la façon dont on design, dont on fait la conception de ces chips, on peut quand même faire des fonctions qui sont tout à fait intéressantes.
Et si l'on regarde la balance commerciale du chip, si j'ose m'exprimer ainsi, on exporte plus de chips que l'on en importe, ou c'est l'inverse?
Alors c'est une très bonne question, c'est extrêmement difficile à répondre, parce qu'il y a un certain nombre de multinationales qui sont basées en Suisse, qui font du design en Suisse, dans certains circuits.
Et vous parlez par exemple?
Alors, On Semiconductor est en Suisse, par exemple. Melexis est en Suisse, dans l'automotive, hein, tout près de Neuchâtel, où je suis aussi. Et il y en a d'autres qui sont là. Donc, comment est-ce qu'on compte les chips qu'elles conçoivent, finalement? Est-ce que c'est Voilà, c'est très difficile de calculer de cette manière.
Vous parliez d'innovation invisible, puisqu'en fait, c'est dans un produit. Il y a de nombreux produits suisses qui utilisent justement ces chips suisses, ou comment est-ce que c'est vraiment une production pour couvrir des besoins très spécifiques?
Alors c'est une chose, c'est d'avoir.
Vous parlez des M-Parrain, est-ce que en gros le tout de fil dans les montres, par exemple?
Alors c'est une partie de leur production évidemment, mais je dirais qu'il est en train de diminuer. Ils ont beaucoup d'autres produits dans beaucoup d'autres domaines, de plus en plus. Mais je vous donne deux autres exemples qui sont très importantes dans des domaines plus consumer. Si vous prenez Phonak, toute leur technologie au cœur repose sur des puces hein, qui est spécialisées qu'ils font. Si vous prenez Logitech, leur capteur pour les souris, par
Et c'est
exemple,
produit en Suisse?
c'est partiellement produit en Suisse, oui.
D'accord, c'est dessiné en Suisse et partiellement produit en
Oui.
Suisse. Et c'est eux-mêmes qui ont les unités qui permettront de produire ces chips.
Non, ils
Non,
travaillent
d'accord, ils
en
travaillent
collaboration.
en. D'accord. Comment est-ce que vous voyez le développement aujourd'hui?
Dans
Vers
quel
quoi dans le domaine du chips? Comment est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on va simplement travailler sur la taille? Aujourd'hui, par exemple, dans les puces, mais vous allez me corriger, on parle beaucoup de NVIDIA, donc qui est un des gros gagnants justement de tout ce qui est AI. Donc là, on parle de chips spécialisés, on parle de quoi?
Je pense qu'il y a des opportunités un peu dans tous les domaines. Encore une fois, le trend qu'on voit d'avoir des circuits intégrés un peu partout pour optimiser ce qu'on fait continue, hein. Il y a, par exemple, l'IoT dont on a parlé il y a 20 ans en arrière, qui s'est jamais complètement réalisé, il hein, faut être
Et
clair.
pourquoi?
Parce que c'était un peu naïf, hein. On allait mettre des chips partout, qu'on allait connecter, on ne sait pas trop comment, à quoi, pour faire quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réaliste et on voit ce qu'on veut faire. Il faut mieux gérer notre énergie. Pour gérer notre énergie, il faut avoir des données, etc. Aussi le fait que maintenant, on arrive à mettre de l'intelligence dans ces chips, beaucoup plus qu'à l'époque, parce que la technologie a beaucoup évolué en 20 ans, ça devient beaucoup plus facile à intégrer tous ces systèmes et on peut faire. Finalement, j'espère, dans les 10 à 20 prochaines années, réaliser un peu ce rêve de l'IoT dans le but d'optimiser les ressources.
Et comment vous voyez la collaboration entre les hautes écoles, les écoles spécialisées, les instituts comme le CSAM?
Alors
Chacun a sa place dans l'écosystème.
chacun a sa place,
Et comment
chacun a
est-ce que
sa
vous le voyez?
spécialité.
Les hautes écoles sont plutôt sur le design, vous êtes plutôt dans l'intégration, comment vous le voyez?
Non, alors on fait tous du design, on a dans des domaines particuliers. Comme toujours, les EPF et TH sont plus à plus long terme, hein, ils regardent ce qu'on va faire dans 5 ans, peut-être moins centré sur l'application. Une compagnie comme le CSEM, on est plus dans ce dont ont besoin les entreprises demain après-demain. C'est plutôt une vision à 3 ans que à 5 ou plus, on va dire.
Et comment vous voyez nos capacités en Suisse par rapport aux capacités à l'étranger? Ou surtout le niveau de développement de la recherche et la qualité de ce qui peut être produit?
Alors j'espère qu'on va rester
Parmi les
dans
leaders?
la course, il y a un challenge. Hein. Je pense que dans toutes les technologies de pointe aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus d'ingénieurs. Ben, la Chine est un bel exemple. Hein. Quand j'ai commencé à travailler dans la fin des années 90 et 2000, la Chine faisait vraiment des produits très inférieurs, on va dire, tout au plus copier des choses. Ensuite, dans les années 2000, plein d'ingénieurs sont retournés par exemple aux États-Unis, en Chine, pour fonder leur compagnie. Aujourd'hui, ils font des choses impressionnantes. Ils deviennent de plus en plus compétitifs. Donc la compétition augmente, il faut qu'on devienne toujours meilleur, il faut qu'on continue d'avancer. C'est le challenge. C'est possible, mais on ne peut pas s'arrêter.
Si je regarde un tout petit peu l'historique, pour autant que je le sache, à l'époque, il y avait quand même dans les pros producteurs Intel, Motorola, etc. Ensuite, il y a de nouveaux acteurs qui ont émergé. Comment se fait-il que finalement les acteurs historiques ne sont pas restés des acteurs historiques? Est-ce qu'ils sont endormis sur leur laurier? Est-ce qu'ils n'ont pas fait les bonnes recherches? Ils n'ont pas fait les bons paris?
C'est toujours la même chose. Je pense que si vous devenez trop gros, c'est très difficile de rester très
Mais
compétitif
vous
et
avez
tout.
aussi plus de chances d'explorer des voies nouvelles, peut-être risquées, mais qui pourraient s'avérer tout à fait profitables.
Possiblement, mais le bel exemple, c'est Intel qui ont finalement raté un peu toutes les trends depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'ils restent sur leurs processeurs qu'on a tous dans nos PC. Hein. C'est merveilleux. Ils sont dans une situation où chaque PC que vous vendez, ils ont un chip à l'intérieur. Donc c'est très reposant comme situation, si je puis dire. Mais ça fait qu'ils avaient moins
De
de
pression.
pression pour vraiment innover et être les meilleurs partout. Donc ils sont bons, hein, soyons clairs, ils sont bons, mais ce ne sont ni les meilleurs en design, ni les meilleurs en technologie.
Et alors pourquoi ils restent toujours à l'intérieur des ordinateurs? Parce qu'en fait, ils pourraient les substituer par des nouveaux?
Alors, c'est parce que, pour des raisons de compatibilité, c'est que sur PC, les logiciels d'il y a plus de 20 ans fonctionnent toujours. Ce n'est pas vrai sur un Mac, par exemple.
Hein. Et donc, vous ne pouvez pas substituer un processeur avec un autre processeur?
Là, on va dans le futur. À mon avis, c'est ce qui va arriver un jour. Et Intel doit commencer à avoir le problème. Donc, il faut qu'ils réagissent et qu'ils passent sur des nouvelles générations de processeurs basés sur d'autres jeux d'instructions, ce qu'on appelle.
Et parmi les sociétés que vous voyez les plus prometteuses dans ce domaine?
Globalement?
Oui.
Bah, c'est difficile de
c'est pour ça que je vous pose la question.
mon Dieu, c'est compliqué de faire des pronostics.
Non, mais je prends de nouveau le cas de NVIDIA. On en parlait à l'époque, mais de façon très spécialisée. Aujourd'hui, c'est devenu un leader. Il suffit de regarder la capitalisation qui a explosé. Et puis déjà, les analystes disent, oui, mais demain, il y aura encore tel producteur qui seront plus performants.
NVIDIA, c'est un cas intéressant. La compétition, il y a 15 ans en arrière, c'était ATI qui s'est fait racheter par AMD, qui est le compétiteur d'Intel. Et à l'époque, Intel s'est posé la question, est-ce qu'il devait racheter NVIDIA? Et ils ont dit, non, c'est trop cher, ça ne vaut pas la peine. Donc, si aujourd'hui, ils avaient acheté NVIDIA, ils seraient dans une autre situation. À part ça, je pense que le consensus, c'est quand même que NVIDIA est dans une bulle. Aujourd'hui, l'AI, de manière globale, est dans une bulle. Ils vont probablement redescendre. Je pense qu'il va y
avoir... Et les nouveaux NVIDIA, alors ce sera qui?
Alors ça, je ne sais pas. Honnêtement, j'aimerais... Si je le savais, j'investirais dans cette compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des chips qui sont très complexes. Il faut beaucoup d'ingénieurs. Il faut des gros investissements. On estime à peu près un milliard d'investissements pour faire un chip de ce type. Mais avec les VC disponibles et tout, il y a quelqu'un qui va le faire et qui va entrer en compétition avec NVIDIA. Bon, il y a déjà des grosses compagnies. Hein. AMD a des capacités, Intel a des capacités, mais ils ont complètement raté dans ce domaine, mais peut-être demain. Et puis, il y aura des startups qui vont se lancer. Je sais qu'il y a des startups qui travaillent dans le domaine. Laquelle va arriver en compétition avec NVIDIA, encore une fois, c'est difficile.
Vous parlez des sommes phénoménales qui doivent être mises sur la table pour développer des nouveaux chips. Maintenant, la rentabilité, ou plutôt le prix du chips, il est en train de baisser, il est en train de se stabiliser, ou est-ce qu'il y a toujours un marché high-end qui a une position de prix qui est très élevée? Comment ça se passe?
Alors, NVIDIA,
parce que si, en principe, s'il y a plus de compétition avec une même qualité, le prix va baisser.
Alors, pour l'instant, NVIDIA a quand même le lead, donc c'est clair que le prix est assez élevé, et le prix va redescendre au moment où il y aura plus de compétition. Mais ça reste un marché extrêmement intéressant, il faut être clair. Il y a de la place pour plusieurs compétiteurs, il n'y a aucun doute. C'est juste que peut-être le stock de NVIDIA va un tout petit peu baisser par rapport à où il est aujourd'hui. Il sera un peu moins stratosphérique, mais il y a absolument la place pour plusieurs compétiteurs. Je pense que l'AI est là pour rester, ce type de processeurs sont là pour rester également.
Vous parliez des nouveaux entrants, par exemple la Chine, que vous avez vu évoluer très rapidement. Il y a seulement la Chine, ou est-ce que l'Inde, ou est-ce que le Brésil, ou je ne sais qui, enfin d'autres pays sont en train de se lancer dans la course?
Alors l'Inde essaye d'y vouloir se lancer dans la course depuis très longtemps, depuis aussi longtemps pratiquement que je suis dans ce domaine. C'est compliqué l'Inde, hein, parce qu'un niveau infrastructure, il faut quand même des très bonnes infrastructures.
Mais si vous prenez le RIT, donc c'est des universités aussi de premier rang.
Alors, ils sont très forts, hein, oui. Il n'y a aucun doute. Mais encore une fois, le problème, c'est l'infrastructure.
D'accord. Donc, ils n'ont pas de fonderie?
Alors, ils ont peu de fonderies. Ils ont déjà des fonderies relativement anciennes ou de générations précédentes. Il y a des initiatives régulières pour mettre l'Inde au premier plan dans ce domaine. Ils vont peut-être y arriver. Pour l'instant, ça reste quand même peut-être un pari.
Quelles seraient les recommandations que vous faites pour la Suisse dans ce domaine?
Pour la Suisse, je pense que quand même, c'est un domaine fondationnel. Il faut qu'on maintienne cette compréhension-là.
Un degré de recherche, un degré d'application, un degré de production.
C'est tout. C'est tout.
C'est tout.
Je pense que si vous perdez une des pièces du maillon, même si vous n'êtes pas les plus avancés en production, mais si vous perdez une pièce des maillons, gentiment, vous perdez tout le reste. C'est-à-dire que finalement, ça reste attaché, la spécialisation. Il faut comprendre quelque chose à comment on produit un chip pour pouvoir le designer. Il faut aussi, et c'est pas que ça, il y a du packaging qui est autour, il y a d'autres métiers. La conception de circuits imprimés de haute capacité aussi importante. Donc il faut garder tout ce tissu, toute cette chaîne de valeur où gentiment elle se défait.
Et donc, en gros, ce que vous dites, il faut garder un des maillons et vous gardez le contrôle de la chaîne.
Je dirais qu'il faut avoir un pied dans tous les maillons, et je pense que Le design, c'est probablement là où on est le plus fort, est-ce qu'il faut, il faut maintenir. Mais avoir une fab en Suisse, c'est très important aussi, je
pense. Et ça devrait faire partie des infrastructures de base de la Suisse, ou est-ce que la Confédération devrait s'investir pour en avoir une, ou est-ce que c'est plutôt un privé qui devrait investir?
Non, je pense que ça devrait être privé. En Suisse, c'est inimaginable d'avoir un investissement public.
Non, mais la Suisse se pose des questions par rapport aux investissements lourds, de dire finalement si c'est des investissements stratégiques, peut-être la Confédération devrait mettre la main au porte-monnaie pour au moins faire une unité de prototypage. Vous pensez que ce n'est pas approprié?
Je pense que ça sera difficile et pas forcément approprié. Je pense qu'il faut travailler en collaboration avec l'Europe, qui
pour
sont
le faire.
Nos partenaires, et pour garantir des accès. On ne peut pas travailler. Ce sont des domaines où on ne peut pas travailler seul. Ça dépasse la Suisse, mais on peut être c'est important qu'on soit un player dans ce domaine, mais c'est toujours des collaborations. C'est jamais une compagnie seule, ou même un pays seul.
Je vous remercie en tout cas pour toutes ces explications. Merci beaucoup.
Merci.